Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Très heureux de vous retrouver pour le 331e numéro de Mélomanie, à l'orée de ce mois de novembre qui s'annonce riche en émotions musicales de toutes sortes. Entre les concerts de l'Orchestre National du Capitole, la nouvelle production de Don Giovanni à l'Opéra National du Capitole et tous les rendez-vous que nous proposent des saisons comme celle des grands interprètes de l'Orchestre de Chambre de Toulouse et de Toulouse Guitare ou celle des Arts Renaissants, cette dernière commence le mardi 18 novembre avec le concert du clarinettiste Amaury Viduvier et de l'ensemble Virtuoso à Saint-Pierre-des-Cuisines. Nous allons vous le présenter au cours de cette émission ainsi que le reste de la saison 25-26 des Arts Renaissants avec nos deux invités du jour, Claude Scavazza, président de l'association, et Jean-Marc Andrieux, son directeur artistique. Également présent, le toujours fidèle Serge Chosy, rédacteur et cofondateur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous allons tout de suite revenir sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à tous les trois. Merci d'être au rendez-vous. Nous commençons ce retour arrière avec le dernier concert en date de l'Orchestre National du Capitole. Il a eu lieu le jeudi 30 octobre. Rappelons qu'il devait être dirigé par Tarmo Peltokoski, mais que le jeune chef finlandais, étant souffrant, a dû être remplacé par Frank Berman. Autre remplacement, celui du pianiste Anton Mejias par le Toulousain Adam Laloum. Serge, vous avez assisté à ce concert. Comment s'est-il passé malgré tous ces bouleversements ?
Eh bien, malgré les bouleversements, le concert s'est très bien passé. C'était un peu, comme je l'ai déjà écrit, le feu sous la glace, en quelque sorte, hein, puisque la symphonie était Antarctica, la symphonie de Vaughan Williams. Mais en première partie, donc, nous avons eu droit au premier concerto pour piano, en ré mineur, du jeune Brahms. Il en a écrit un second, mais beaucoup plus tard. Ce concerto est un concerto avec une écriture vraiment héroïque et dynamique. Et Adam Laloum, il se trouve qu'il est un peu un spécialiste de Brahms. Il a d'ailleurs enregistré les concertos. Il a enregistré beaucoup de musique pour piano solo. Donc, il était tout à fait en situation. Et ce qu'il a fait a été excellent. Avec cette introduction orchestrale tempétueuse, le maestoso, donc, le premier mouvement. Et là, on a trouvé, dès l'entrée d'Adam Laloum, une canalisation, en quelque sorte, de cette violence dans un dialogue qui était tout à fait touchant avec l'orchestre, avec beaucoup de nuances de la part du pianiste, y compris des nuances très douces et un héroïsme pas simulé du tout. Hein. On a eu aussi l'adagio, qui a été peut-être mon mouvement favori de cette exécution, avec des échanges entre le piano et l'orchestre, qui ressemblaient à une confidence entre les deux. C'était vraiment très touchant, avec un jeu du pianiste qui, par moments, se réfugie aux confins du silence. Il y a presque du silence, on entend à peine le piano. C'était vraiment très émouvant. Et puis le rondo final, qui est en quelque sorte une libération, avec un grand succès de la part du public, au point que, évidemment, il est revenu et il a joué un bis, Adam Laloum, vivifiant, puisqu'il s'agissait du scherzo de la dernière sonate de Schubert, la 21e, Deutsch 960, qu'il a joué avec beaucoup d'élégance et beaucoup de finesse. Ça, c'était la première partie. La seconde partie, eh bien, c'était une partie découverte pour la plupart des gens du public, y compris moi-même. C'était la découverte de la symphonie numéro 7, dite Antarctica, du compositeur britannique Ralph Vaughan Williams. C'est une œuvre qui, au début, était une musique de film. C'était une musique d'un film qui s'appelait « L'épopée du capitaine Scott ». Le film est sorti en 1948. Ce film relatait l'épopée d'une expédition au cours de laquelle les 5 explorateurs sont morts de faim et de froid. C'est pas très gai comme intrigue, évidemment. Et donc, le sujet a beaucoup intéressé le compositeur, qui ensuite a voulu utiliser sa musique, la modifier, pour composer cette 7e symphonie, écrite pour un grand orchestre, ainsi qu'un chœur de femmes. Un chœur de femmes très peu nombreux, il y avait 12 chanteuses, et une soprano solo, qui en fait n'interviennent qu'au premier et au dernier des 5 mouvements de cette symphonie. Les dames du chœur, c'était le chœur d'État de Lettonie, Latvija, qui est dirigé par Maris Sirmais. Et alors, c'est un chœur sans parole. C'est un peu comme le Daphnis et Chloé de Ravel, hein, le cœur, il ne prononce pas de paroles.
Bouche fermée.
Ou ouverte, mais en tout cas, pas de paroles. C'était vraiment très novateur pour nos oreilles, hein, donc, avec le fait que chaque mouvement est accompagné d'un poème ou d'un psaume biblique qui n'est pas du tout déclamé par le chœur, puisque le chœur n'a pas de parole, ou d'un extrait du journal même du capitaine Scott, des textes qui étaient imprimés dans le programme de salle, ce qui est une belle initiative, donc on pouvait suivre en même temps, écouter ceci. Frank Berman a dirigé cette œuvre, alors comme je le signalais hors micro, je ne sais pas si c'est la première fois qu'il la dirige ou si ça fait partie de son répertoire, en tout cas, il l'a dirigée avec une énergie et une conviction vraiment impressionnante, avec à la fois l'angoisse de la catastrophe qui se manifeste dès le prélude, et puis une richesse d'orchestration, un déploiement de couleurs très compatible, même pour les auditeurs qui ne sont pas très attirés par la musique dite contemporaine, atonale. Là, c'est une musique tonale, une très belle écriture. Et donc, le quatrième mouvement en particulier, Intermezzo, là aussi c'est peut-être le mouvement qui m'a le plus touché, qui est un andante sostenuto. Et puis ensuite, jusqu'à la conclusion, à laquelle les voix féminines ont conféré cette étrange sérénité des grands espaces glacés. Donc c'était vraiment très suggestif. Ce silence s'est prolongé d'ailleurs, un long moment, jusqu'à la réaction enthousiaste du public. Il y a eu des remerciements réciproques du chef vis-à-vis des musiciens qui ont applaudi le chef. Donc ça s'est très très bien passé.
Bah, c'était un peu un pari de programmer cette symphonie pour la première fois à Toulouse. Pari gagné manifestement, même sans Tarmo Peltokos qui est la direction. Alors ceux qui connaissent Adam Laloum savent à quel point il est un grand serviteur du répertoire romantique germanique, notamment, Serge l'a rappelé, des œuvres pour piano de Schubert, de Schumann et de Brahms. Il y a quelques années, il avait enregistré ce concerto numéro 1 de Johannes Brahms, celui qu'il a joué jeudi dernier à la Halle au Grain avec l'Orchestre du Capitole. Ça nous donne l'occasion de le réécouter dans une interprétation du deuxième mouvement, Rondo Allegro non troppo. Le deuxième mouvement, Rondo Allegro non troppo du concerto pour piano numéro 1 de Johannes Brahms, dans une version enregistrée par Adam Laloum. Notez que les prochains concerts de l'Orchestre National du Capitole sont programmés ces 5 et 6 novembre à la Halle au Grain, avec un autre pianiste en soliste invité, le russe Roman Borisov. Nous en parlerons en seconde partie d'émission. Revenons maintenant sur le premier concert de la 40e saison des Grands Interprètes, donné lundi à la Halle au Grain par le Tokyo Philharmonic Orchestra sous la direction de Myung Woon Chung, qui a accompagné Maxime Vengerov dans le concerto pour violon de Tchaïkovski. Il y avait aussi au programme de cette soirée les suites pour orchestre que Serge Prokofiev a tiré de son ballet Roméo et Juliette. C'était vraiment une sorte de concert de gala, Serge, oui. Entre autres parce qu'il marquait le retour à Toulouse de Maxime Vengerov, immense violoniste, immense artiste, pas entendu à la Halle depuis près de 20 ans.
Depuis 2006, exactement. J'ai fouillé dans mes archives et j'ai 2006. Trouvé qu'il avait joué avec Lilia Silberstein, un duo, le 16 novembre 2006.
Absolument.
Alors que Myung Woon Chung, lui, il vient très souvent. Oui. Il était là en 2022.
Il y a 3 ans,
c'est,
il était là.
C'est vraiment un habitué de la Halle au Grain. Eh bien, on a eu droit au retour de ce grand, très grand violoniste, il faut dire. Et c'était vraiment une redécouverte, pour ma part en tout cas. Les premières notes qu'il joue, c'est éblouissant de sonorité, de générosité dans la sonorité, une sonorité intense, avec un legato magnifique, oui, magnifique, vraiment un jeu formidable. En particulier, j'ai souligné la fièvre de la cadence du premier mouvement qui était ahurissante, mais alors toujours très contrôlée, hein, rien qui ne dépasse ou qui ne déborde. Un grand moment avec, dans le deuxième mouvement par contre, un charme, une douceur impressionnante.
La cantata, oui.
Ah ça c'était oui. Incroyable. Et puis le troisième mouvement avec de l'éclat, mais quand il faut, avec aussi de la tendresse. Et puis ça finit avec une grande effervescence, évidemment, qui a eu un gros succès. Alors, il faudrait dire quelques mots de la direction de Myung Woon Chung, une direction d'une sobriété impressionnante.
Extrêmement dépouillée.
Il ne bouge pas, à peine s'il bat la mesure, mais vraiment, c'est très différent de ce qu'il faisait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il était très dynamique.
Le fruit d'expérience.
Eh oui, apparemment, oui, oui. Là, vraiment...
Parfois moins, c'est plus.
Oui, exactement, exactement. Donc, c'était très, très beau. Le violoniste a eu un vrai triomphe, évidemment. Très justifié. Et donc, en bis, il a joué l'adagio de la première sonate pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. Il l'a joué avec très peu de vibrato, presque pas de vibrato. Mais... on sait qu'il s'intéresse au violon baroque et à la musique dite historiquement informée. Et donc, il a joué ça avec beaucoup de distance par rapport à ce qu'il venait de jouer dans le Brahms, évidemment. Il n'a pas joué ça comme du Brahms, heureusement. C'était vraiment très impressionnant et très, très, très beau. Ensuite, en deuxième partie, on a eu droit à cette sélection de pièces extraites des deux suites de Roméo et Juliette, le ballet de Prokofiev. Alors, c'est une sélection qui suit la dramaturgie de la tragédie de Shakespeare, hein, avec Montaigu Capulet, puis Juliette jeune fille, masque, etc. Donc, il y a toute une liste d'épisodes et que Myung Woon Chung dirige vraiment avec la dramaturgie qui correspond à ce qu'elle représente. Et là, c'était là aussi un très beau moment avec... notamment l'explosion initiale, Montaigu et Capulet, c'est une immense explosion qui démarre.
La danse des chevaliers que tout le monde connaît.
Et puis la danse des chevaliers qui a hélas servi dans quelques publicités. Mais au moins ça a servi à populariser.
Les gens ont dans l'oreille comme ça.
Voilà. Et donc il a joué, dirigé avec beaucoup de relief, avec des contrastes impressionnants, notamment dans ce premier mouvement d'entrée, la violence et la douceur immédiate. Qui ouais. suit. C'était vraiment très très bien fait. Vraiment un très beau moment là aussi pour ces séquences de Roméo et Juliette de Prokofiev. Il a même donné un bis.
Oui, ce qui n'est pas commun
à l'orchestre. C'est pas courant. Alors il faut quand même dire un mot de l'orchestre hein, qui est magnifique.
Excellent.
Hein, qui est vraiment
une
un
précision,
orchestre.
D'une netteté,
à la fois précision,
entre les pupitres,
à la couleur, ouais.
très
l'équilibre entre les
pupitres,
entre les pupitres, c'est formidable. Hein.
C'est
oui,
bon
oui. Donc vraiment un très bel orchestre qui a donné un bis. Et le bis, très courant, c'était la cinquième dans son croisebras.
Non, c'était la première.
La première.
La première dans son croisebras de Brahms.
Une belle exécution, là aussi, l'orchestre...
Oui.
Enflammé, donc...
Qui a été annoncé par Myung Woon Chung en français.
En français,
parce qu'il faut rappeler
exactement.
Qu'il a été quand même pendant 15 ans le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Mais oui.
Donc
oui.
Il parle très bien français.
Oui, oui, oui.
Et notre ami Maxime Vengerov a lui aussi dit quelques mots en français avant de jouer son bis.
Oui, oui, exactement. Il l'a même présenté, ce qui n'est pas souvent le cas
non.
de la part des solistes.
Non, il est très détendu, très heureux d'être là.
Ah oui,
d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Voilà,
bah, ouais,
c'était
ouais.
une superbe soirée qui lance magnifiquement cette 40e saison des grands interprètes. Pour illustrer un peu tout ce qu'on a pu entendre, je vous propose propose d'écouter Maxime Bengerov encore une fois dans le début de la canzonetta, le deuxième mouvement d'Andante du concerto pour violon de Tchaïkovski. Merveilleux Maxime Bengerov dans la canzonetta au début du deuxième mouvement du concerto pour violon de Tchaïkovski. Le prochain rendez-vous du cycle des grands interprètes est prévu en fin de semaine, le samedi 8 novembre à 20h à la Halle au Grain, avec le concert de la Loge et l'ensemble La Sportelle. Nous allons vous le présenter aussi en seconde partie d'émission. Fin de ce retour arrière, petite virgule musicale avant de retrouver Serge Chosy et nos deux invités d'honneur, Jean-Marc Andrieux et Claude Scavazza, pour la saison 25-26 des Arts Renaissants. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Seconde partie de cette émission avec Serge Chosy et donc nos deux invités d'honneur, Claude Scavazza et Jean-Marc Andrieux, respectivement président et directeur artistique des Arts Renaissants, dont la saison commence, je le rappelle, le mardi 18 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Claude, est-ce que le programme de cette saison 25-26, de manière générale, est fidèle à l'esprit et à la ligne artistique de l'association en mêlant des valeurs sûres de la scène nationale et internationale à de jeunes talents et à des musiciens de notre région? En tout cas, c'est ce que vous essayez de faire depuis des années.
Tout à fait. D'abord, merci de nous accueillir, comme vous le faites chaque année, pour présenter cette 43e saison. On parlait de la 40e des grands interprètes. La
43e, vous êtes encore plus ancien.
Oui, c'est en 82 donc, que Xavier Darras décide et lance cette idée originale de créer une association avec une série de concerts. On a gardé ce rythme, bien sûr. Donc, 6 concerts, un par mois, de novembre à avril. C'est le calibrage de notre institution. Mais surtout, de lancer une idée révolutionnaire qui est les concerts au musée. Puisque idée qui était une innovation et qui a été largement reprise. À ce propos, ça me donne l'occasion de faire une petite actualité sur le musée des Augustins, puisque
les auditeurs
le savent peut-être.
Oui.
Le 17 décembre, la séance inaugurale de réouverture sera faite, et le 19 décembre, réouverture au public, après donc 8 années d'interruption.
Mais il y a longtemps que c'est attendu.
8 années de travaux. Est-ce que ça veut dire que les Arts Renaissants vont revenir au musée? Certainement pas. Je crois qu'il faut être clair pour un certain nombre de raisons. D'une part, la scénographie des salons de peinture ne le permet plus. La jauge pour nous est plus suffisante.
Réduite, oui.
Ça, c'est un point important. Sans parler des problèmes de sécurité. Donc cet accueil depuis 35 ans. D'abord consacré aux musiques anciennes, on le sait, le répertoire des Arts Renaissants qui reste marqué par la musique baroque, ça a été dit, s'est significativement élargi jusqu'à proposer des concerts, on le verra tout à l'heure, qui mêlent la musique classique au jazz, aux musiques populaires, aux musiques du monde. c'est aussi le petit clin d'œil qu'on essaye de faire chaque année sur au moins un de nos concerts. Donc cette année, on réinvestira des lieux emblématiques de la ville, hein, patrimoniaux de la ville, l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines et l'église Saint-Jérôme. Pour cela, et c'était le sens de votre question, toujours les mêmes ingrédients, hein, donc d'inviter des artistes de renommée internationale, mais aussi des artistes régionaux, hein, pour encourager l'excellence locale, qui le mérite bien aussi, et puis les jeunes talents, hein, pour faire connaître ou promouvoir des jeunes artistes et des virtuoses de demain. Le rajeunissement du public et la promotion des jeunes artistes, c'est vraiment des idées très très fortes qu'on développe depuis quelques années. Je voulais signaler que la Fondation AG2R La Mondiale, à la saison dernière, a voulu nous encourager et reconnaître le travail qu'on fait dans ce sens-là. Donc cette fondation s'appelle la Fondation pour la vitalité de la vie artistique, c'est un joli nom, hein, et nous a donc encouragé à continuer à faire cette promotion des jeunes artistes, hein, les étoiles montantes. Je crois qu'on le verra encore pour cette saison. On a eu souvent l'occasion d'accueillir des premières pour un certain nombre de jeunes artistes qui sont devenus aujourd'hui des véritables stars. Ce concept donne ses fruits finalement, hein, on constate incontestablement un rajeunissement de notre public, on le voit dans les abonnements, on le voit dans la billetterie. Et puis, bon, la fréquentation a atteint des niveaux qui sont tout à fait respectables. On a à peu près 90% de fréquentation sur chacun de nos concerts en moyenne, qui, je crois, atteste du fait que le public apprécie bien de ce qu'on lui propose.
Oui, je pense qu'il y a une vraie fidélité, effectivement, du public des arts renaissants, une confiance aussi, hein, aux programmations que vous proposez. Alors, cette saison 25-26 s'ouvre donc le mardi 18 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines avec le concert donné par le clarinettiste Amaury Viduvier et l'ensemble Virtuoso. Il me semble que c'est une première à Toulouse pour ce musicien et cet ensemble. Je vais laisser Jean-Marc Andrieux nous les présenter ainsi que le programme qu'ils vont jouer ce soir-là.
Oui, effectivement, merci pour votre accueil d'abord. Amaury Viduvier, je ne suis pas sûr qu'il soit déjà venu à Toulouse.
Moi, ça ne me dit rien.
On en a parlé. En tout cas, c'est vraiment une très très bonne idée de l'accueillir parce qu'il faut avouer que c'est entre guillemets un extraterrestre, la clarinette. Si vous n'aimez pas la clarinette, il faut absolument venir, vous allez changer d'avis. Et si vous aimez la clarinette, vous devriez être déjà assis dans l'auditorium à l'attendre le 18 novembre prochain. Non, hors blague, c'est vraiment un phénomène. C'est vrai que quand on a découvert cet artiste et l'ensemble qui va l'accompagner, vous allez voir un répertoire très éclectique qui tourne autour de la danse, autour de l'énergie, qui va traverser les océans. On va entendre à la fois du Vivaldi, du Piazzolla, du Django Reinhardt, du Bizet, Mendelssohn, Brahms, de la musique un peu qui
Balkans,
se rapproche
de
Klezmer, des Balkans. Enfin, on va voir que la clarinette, c'est un instrument polyvalent et avec un artiste absolument merveilleux.
Oui, alors effectivement, il y aura aussi Samuel Barber, son fameux adagio. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire.
Il me tarde de l'entendre.
Il y a six musiciens donc dans l'ensemble Virtuoso qui accompagnent Amaury Viduvier.
Oui, quatre violons, un alto, violoncelle et contrebasse. Des cordes et en plus qui font partie des meilleures phalanges parisiennes.
On va avoir c'est incroyablement éclectique ce programme. Il y en a, je pense, vraiment pour tous les goûts et que de très belles pièces. Pour avoir un aperçu de ce programme Danza que vont donner Amaury Viduvier et l'ensemble Virtuoso le mardi 18 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, nous allons écouter leur version de la danse hongroise numéro 1, Serge, de Johannes Brahms.
Thank you.
Amaury Viduvier et l'ensemble Virtuoso jouaient la danse hongroise numéro 1 de Brahms, l'une des pièces au programme de leur concert Danza du mardi 18 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, en ouverture de la saison 25-26 des Arts Renaissants. Et pour le rendez-vous suivant, qui va avoir lieu le mardi 16 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme, cette fois-ci, nous allons être un peu plus en terrain de connaissance, puisque vous avez invité l'ensemble Le Concert de l'Hôtel Dieu, déjà entendu à de nombreuses reprises à Toulouse et dans notre région. Ces 9 musiciens sont dirigés par le claveciniste Franck-Emmanuel Comte, mais ils ne viennent pas seuls, Jean-Marc. Ils accompagnent une soprano et un mandoliniste que vous allez pouvoir nous présenter.
Oui, bien sûr. On est très, très heureux de vous accueillir aussi. J'insiste sur ce concert-là, découverte. Vraiment, si vous êtes curieux, si vous avez envie d'anticiper sur les fêtes de Noël, c'est le moment de venir. Voilà, 16 décembre. Concert de l'Hôtel Dieu, donc c'est des Lyonnais. Franck-Emmanuel Comte est claveciniste et originaire de Lyon. Et il accompagne avec son ensemble Heather Newhouse, qui est une soprano canadienne que j'ai déjà invité. Ils sont venus faire un concert à Montauban.
Oui, son nom n'est pas inconnu, effectivement.
Ils sont venus faire un programme sur les folies, d'ailleurs, au Festival Passion Baroque à Montauban. Ceci dit, c'est une soprano que j'aime beaucoup, qui a une très très belle voix, très très expressive et très dynamique, et qui sera accompagnée aussi par Vincent Berdemander, mandoliniste. En tout cas, là, on aura le plaisir d'entendre un répertoire qui va nous amener à Naples, à passer Noël à Naples avec des cantates de Scarlatti sur ce thème de la nativité, et puis après de la musique populaire italienne, napolitaine, des tarentelles et des Noëls populaires de cette région-là, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qu'on va découvrir. C'est une énergie extraordinaire, et je pense que ça va être difficile de rester assis.
Concernant les Scarlatti, il y a les deux, il y a Alessandro et Domenico.
Alors, essentiellement, Alessandro, le père, effectivement, qui est l'auteur de ces cantates, il en a écrit, je ne sais pas combien, 600 ou 800. C'est un des grands créateurs de cette forme musicale, la cantate, oui, tout à fait. Et son fils, Domenico, qui est évidemment connu pour ses incontournables 555 sonates pour clavecin, mais qui est l'auteur aussi une sonate pour mandoline et basse continue.
Il va y avoir pas mal de découvertes aussi ce programme, dont je vais vous proposer un extrait. Programme Noël napolitain donné par le concert de l'Hôtel Dieu mardi 16 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme. Voici une tarentelle napolitaine arrangée par Franck-Emmanuel Comte. Thank you. une tarentelle napolitaine arrangée par Franck-Emmanuel Comte, un extrait du programme Noël napolitain que donne le concert de l'Hôtel Dieu, la soprano Heather Newhouse et le mandoliniste Vincent Baird de Mandaire, mardi 16 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme pour le deuxième rendez-vous de la saison 25-26 des Arts Renaissants. Une autre première nous attend à Toulouse pour le concert suivant avec la venue du quatuor féminin Les Capsperg Girls, mardi 6 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Elle propose un programme sous-titré « Que fai tu ?», qui veut dire « Que fais-tu ?», si l'on traduit l'italien en français, qui sont ces quatre jeunes musiciennes. Jean-Marc, j'avoue, je ne les connais pas.
Que fais-tu ? Que fai tu ? Ben, je vais au concert, bien sûr. Et pour commencer, je suis très très heureux qu'on invite un ensemble féminin, parce que ce n'est pas toujours le cas.
Non, c'est rare.
On en trouve dans les,
ça se développe de plus en
petits ensembles vocaux, ouais, comme
voilà.
Ça.
Mais bon, il faut donc développer ce principe-là. Les Capsberger, c'est en fait un petit clin d'œil à un compositeur du XVIIe siècle, Capsberger, un virtuose du luth et du théorbe.
Qui est italien, contrairement à ce qu'on pourrait laisser croire.
Effectivement, qui est originaire d'Italie. Et on va entendre un répertoire XVIIe siècle, là aussi très varié, très dynamique. Finalement, on va bouger sans arrêt aux Arts Renaissants. Cette année, on va voir la bougeotte. Ce sont quatre filles, il y a deux chanteuses, une soprano et une mezzo, qui chantent évidemment en duo ou en solo, mais qui sont accompagnées par une viole de gambe et le théorbe, le luth ou le théorbe. Et cet ensemble-là a une énergie qu'on ne peut pas imaginer quand on les entend. Elles ont reçu je ne sais pas combien de récompenses dans la presse. 4 F de Télérama.
Oui, oui.
Déjà, dans Télérama, pour être chroniqué dans Télérama, ce n'est pas évident.
Ah, oui,
elles ont
eu 4
F. Et on va entendre de la musique justement de ce début du 17e. On va découvrir. Bon, il y a des compositeurs, notamment Giuseppe Colombi, je ne sais pas si vous connaissiez.
Non, Merula, oui.
Tarquinio Merula, j'en ai joué souvent.
Capsberger, bien sûr.
Capsberger, évidemment.
Barbara Strozzi, oui.
Barbara Strozzi, une des rares compositrices
de l'époque
baroque. Ouais. Ouais. Voilà, donc de la musique virtuose et vraiment très très bien défendue. Très très bien défendue.
Alors il y aura aussi du Domenico Pellegrini et du Santiago de Murcia. Lui il doit être plutôt espagnol, je pense.
Oui.
Voilà, donc c'est un programme découverte à tout point de vue, découverte de ces quatre musiciennes et puis découverte de nombreux compositeurs de cette période du baroque italien et un petit peu espagnol. Donc nous allons pouvoir découvrir justement les voix magnifiques, le son aussi de l'archiluth et de la viole de gambe de ces Capsberg Girls avec une interprétation de Che si può fare, une pièce de Barbara Strozzi. Thank you. C'est vraiment superbe, ça donne des frissons cette pièce de Barbara Strozzi, en plus quand elle est chantée comme ça. Che si può fare, que peut-on faire? Superbement interprété donc par les Capsper Girls. Et ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'aller les écouter le mardi 6 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, où elles donnent donc le programme Che fai tu. Quatrième concert de la saison, mardi 3 février à 20h, de nouveau à Saint-Pierre-des-Cuisines, où nous allons retrouver là encore une formation qui est souvent venue à Toulouse, l'ensemble Café de Zimmermann, dirigé par le violoniste Pablo Valetti. Le programme est sous-titré « Une soirée au café de Monsieur Zimmermann ». J'ai dans l'idée que l'on devrait y entendre surtout du Jean-Sébastien Bach, Jean-Marc Andrieux, puisque, faut-il le rappeler, le Café de Zimmermann, c'était une échoppe de Leipzig où Bach et ses fils venaient jouer leur musique. Et puis il y avait d'autres compositeurs qu'il a fréquentés à l'époque, comme Telemann, par exemple.
Bach, qui a pris la direction artistique de ce Café de Zimmermann, qui dirigeait les concerts, mais cette institution a été créée par Telemann, justement, quelques années avant que Telemann quitte Leipzig pour d'autres cieux. Peut-être il est parti à Hambourg après, ou Magdebourg. En tout cas, c'est Telemann qui a créé cette institution. Bach lui a succédé. D'ailleurs, ils étaient en relation, je ne sais pas s'ils se sont souvent rencontrés, mais ils étaient en tout cas en relation. Et Bach avait une très très grande admiration pour Telemann.
C'était le grand compositeur de l'époque.
C'était la grande star. Pour la petite histoire, quand Bach ne composait pas de cantate, ce qui pouvait arriver, il faisait jouer une cantate de Telemann. Et puis son fils, Carl-Philippe Emmanuel, le parrain de Carl-Philippe Emmanuel, c'est Telemann. Oui. Philippe, le Philippe de Carl-Philippe Emmanuel vient de Georges-Philippe Telemann. Voilà, j'ai fini cette petite parenthèse historique pour vous dire que c'est un programme qui est connu quand même, les concertos brandebourgeois.
Oui, il y a le 5 et le 4.
Mais on va entendre des versions par le Café Zimmermann. C'est une référence absolue dans ce répertoire. Oui. Et puis, il me tarde aussi de les entendre jouer un concerto que j'ai très souvent joué, qu'on a même enregistré avec les Passions.
Et oui.
C'est le double concerto pour flûte avec et flûte traversière. C'est très rare
d'entendre
ces deux instruments. De Telemann, c'est un chef-d'œuvre absolu.
Oui. Il y a aussi le concerto pour flûte, violon et violoncelle en la majeure du même Telemann. Et donc au programme de ce concert du 3 février, il y a entre autres le concerto pour violon BWV 1041 de Jean-Sébastien Bach. Voici son premier mouvement Allegro Moderato dans une version enregistrée par l'ensemble Café de Zimmermann.
Thank you.
Le premier mouvement Allegro moderato du concerto pour violon en la mineur BWV 1041 de Jean-Sébastien Bach dans une version enregistrée par l'ensemble Café Zimmermann qui est donc en concert le mardi 3 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Avant-dernier rendez-vous de la saison, mardi 31 mars. C'est aussi à 20h et c'est toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec ceux qu'il faut bien appeler les régionaux et même les Toulousains de l'étape. Hein. Le trio formé par le jeune pianiste Constant Després, le mandoliniste Julien Martineau et le pianiste de jazz cubain Rolando Luna. Ces deux derniers étant des Toulousains d'adoption, mais ils sont établis ici depuis pas mal d'années. Hein. Voilà un trio qui étonne et qui détonne, Jean-Marc, pour un programme tout aussi détonnant, intitulé « Des deux côtés de l'Atlantique ».
Et oui, encore une fois, c'est une formation qui va nous donner envie de bouger. Ça va être très difficile de garder les chaises en place. À l'auditorium Saint-Pierre-de-Cuisine, on va essayer de ne pas tout démonter. Mais en tout cas, au niveau de l'ambiance, on va tout casser là, je pense.
Ouais, ça va bien bouger, effectivement.
On va avoir un programme aussi, comme vous l'avez dit au début de l'émission, on va traverser l'Atlantique quelques fois pour aller faire des voyages en Amérique du Sud, avec des compositeurs argentins ou Piazzolla aussi. On va aller en Espagne avec Albéniz, avec Granados. Enfin, on va se promener et retrouver avec grand bonheur ce trio emblématique hein, quand même à Toulouse. Alors donc, Constant Després, Claude le sait mieux que moi, c'est un prodige du piano, un des nombreux prodiges toulousains. Et on a une école de piano quand même formidable
oui,
à Toulouse.
Oui, régulièrement, on sort de... De beaux spécimens, j'allais dire.
Tout à fait, et Constant est dans la lignée dans l'héritage de ses virtuoses. Et il a comme spécificité d'avoir une ouverture stylistique extraordinaire. Extraordinaire, il est capable de tout jouer, notamment avec son complice Rolando Luna, qui a été...
membre du Buena Vista Social Club.
Un des derniers pianistes. Un dernier pianiste du Buena Vista Social Club, autant vous dire que, entre guillemets, c'est du lourd. Et puis, va se joindre à ce duo, Julien Martineau, notre ami Julien Toulousain, mandoliniste, une des stars aussi de la mandoline.
Et voilà, et directeur du Festival de Toulouse que nous avons souvent invité dans cette émission. Puis Rolando Luna, pour revenir à lui, est vraiment grand, grand du jazz cubain. Je crois même que Chucho Valdés, le grand Chucho Valdés, le considère un peu comme son héritier.
Exactement. Oui, oui.
Voilà, Rolando qui est établi, lui, à Colomiers depuis déjà pas mal d'années. Donc il vit une bonne partie de l'année près de Toulouse. Ce sont trois amis aussi hein, qui adorent se retrouver sur scène. Et pour vous donner une idée de ce que peut donner un concert avec... ce mélange entre le piano de Constant Després et Rolando Luna et la mandoline de Julien Martineau, voici leur version du fameux Libertango d'Astor Piazzolla. Libertango d'Astor Piazzolla par le trio Constant Després, Rolando Luna et Julien Martineau en concert le mardi 31 mars à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et enfin, sixième et dernier rendez-vous de la saison, le vendredi 17 avril à 20h à l'église Saint-Jérôme cette fois-ci, qui nous ramène à un tout autre registre avec deux des plus grands talents de la jeune génération baroqueuse française, le luthiste Thomas Dunford et le violoniste Théotime Langlois de Zwart. On connaît bien le premier pour l'avoir entendu à plusieurs reprises en concert à Toulouse, en solo ou avec son ensemble Jupiter. On l'a même entendu à Passion Baroque en 2024 à Montauban. Quant au second, qui fait aussi partie de l'ensemble Jupiter, on l'a déjà entendu une ou deux fois aussi dans la Ville Rose et dans notre région, puisque c'est un ancien du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Il est originaire de Perpignan, Théotime Langlois de Sarthe.
Tout à fait, il fait une carrière exceptionnelle. Il commence à diriger d'ailleurs aussi. Il joue aux Arts Florissants. Enfin bon, c'est une des grandes stars du violon baroque français quand même. En fait, l'idée, c'était de les inviter pour ce programme-là, The Mad Lover. C'est un
L'amoureux fou.
Un disque qu'ils ont enregistré, en quelle année, je ne sais plus, mais il y a quelques temps. Mais ils vont nous faire ce cadeau inestimable de nous redonner ce programme extraordinaire de musique anglaise cette fois-ci. Peut-être on aura moins envie de danser, on aura peut-être envie de faire vibrer notre corps de mélancolique et tout ça sur ce programme. Mais quelle musique, quelle beauté.
C'est très très beau.
Et puis, ce duo-là fonctionne de façon idéale. Voilà, vraiment.
Ah, c'est deux copains, ouais. C'est vraiment deux copains qui adorent jouer ensemble. Mmh. Ils sont très sympathiques tous les deux, sympathiques.
Et puis là aussi, ils cochent beaucoup de cases, ils ont du talent. Et puis c'est des jeunes, c'est la nouvelle génération de la musique baroque. Et je les admire.
On va terminer en douceur cette présentation de la saison 25-26 des Arts Renaissants. Nous allons écouter Thomas Dunford et Théotime Langlois de Sarthe jouer ici un extrait de la suite The Mad Lover de John Eccles. Extrait de la suite The Mad Lover de John Eccles, joué par Thomas Dunford et Théotime Langlois de Sarthe. Le luthiste et le violoniste donnent le dernier concert de la saison 25-26 des Arts Renaissants, vendredi 17 avril à 20h à l'église Saint-Jérôme. Il nous reste un tout petit peu de temps pour vous présenter deux concerts que je vous annonce en première partie d'émission. D'abord, les deux concerts de l'Orchestre National du Capitole, c'est mercredi 5 et jeudi 6 novembre à 20h à la Halle aux Grains. Il devait être dirigé par Tarmo Peltokoski et on devait y entendre la pianiste Yuya Wang. Tous les deux ont déclaré forfait, comme vous le savez, ce qui a impliqué un changement de chef et un changement de pianiste, Serge, et même un changement de programme.
Exactement. Donc le chef américain Ryan Bancroft, qui est bien connu à Toulouse, qui a déjà dirigé plusieurs fois l'orchestre, remplacera donc Tarmo. Et puis la pianiste chinoise Yuya Wang sera remplacée par un tout jeune pianiste russe, 22 ans, qui s'appelle Roman Borisov, et qui au lieu du concerto numéro 2 de Prokofiev, jouera le concerto numéro 2 de Rachmaninov. Et donc on aura droit à ce concerto, et ensuite au poème symphonique Les Planètes de Gustav Holst, poème symphonique qui a été écrit entre 1914 et 1917, qui évoque les planètes du système solaire. Et c'est le cœur d'État de Lettonie, Latvija, toujours placé sous la direction de Marie Sirmaes, qui intervenait dans un concert dont on a déjà parlé, qui chantera une partie pleine de magie dans les planètes de Gustav Holst.
Voilà, donc ça c'est les 5 et 6 novembre, c'est mercredi et jeudi à la Halle aux Grains. Et puis prochain rendez-vous du cycle des grands interprètes, samedi 8 novembre, également à 20h et à la Halle aux Grains. Le concert de la Loge et l'ensemble vocal La Sportelle s'y produit, Serge, et il propose un programme entièrement dédié à Mozart.
Entièrement, avec alors le gros morceau du concert, ce sera la grande messe en ut mineur. Que chez le 427, avec 4 solistes, la soprano Mélissa Petit, la mezzo-soprano Eva Zajcik, le ténor Antonin Rondepierre et la basse Nahuel Di Piero, mais ce sera entouré de l'ouverture des Noces de Figaro et la symphonie numéro 41, Jupiter, du même Mozart, donc entièrement Mozart.
Voilà que j'ai entendu ce programme et ses interprètes en clôture du festival de Rocamadour 2025 il y a quelques mois. C'était très très beau, donc je vous conseille d'y aller. On va écouter un tout petit extrait de la grand-messe en ut de Mozart dans une version du concert de la Loge où l'ensemble dirigé par le violoniste Julien Chauvin accompagne la mezzo-soprano Marina Viotti dans le Laudamus Te. Le Laudamus Te de la messe en ut, une des 3 œuvres de Mozart au programme du concert que donne le concert de la Loge et l'ensemble La Sportelle ce samedi 8 novembre à 20h à la Halle aux Grains. La billetterie est en ligne à l'adresse www.grandsinterprètes.fr. Avant cela, l'Orchestre National du Capitole est en concert au même endroit. C'est mercredi 5 et jeudi 6 novembre à 20h avec le pianiste Roman Borisov sous la direction de Ryan Bancroft. Vous pouvez acheter et réserver vos places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Je signale également le concert du duo Alma ce vendredi 7 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Concert performance avec l'artiste plasticienne Sandrine Foller. L'entrée est libre et gratuite, mais il vaut mieux s'inscrire au préalable sur le site web du CRR de Toulouse. Un grand merci à Serge Chosy, Jean-Marc Andrieux et Claude Scavazza d'avoir été les invités de cette émission. Je rappelle que la saison 25-26 des Arts Renaissants commence le mardi 18 novembre avec le concert d'Amaury Viduvier et de l'ensemble Virtuoso à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Les réservations et la billetterie sont en ligne sur le site www.art-renaissant.fr où vous trouverez aussi tout le détail de la programmation de la saison. Merci à Coraline Camebrac, la réalisatrice de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin de votre fidélité à l'écoute de Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous.